Cop Goal avec la brasserie L'Argençon, l'adresse gourmande des supporters lyonnais.
Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi pour Cop Goal. L'heure est au bilan ce soir. Et oui, la saison de Ligue 1 s'est terminée hier soir pour l'Olympique Lyonnais. On va en parler longuement ce soir avec Edouard G, correspondant RMC Sport à Lyon. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Elodie, bonsoir à tous.
Laurent Devigny avec nous également bonsoir ce soir. Elodie. Bonsoir Laurent. Faisal Wissam et Jean-Edouard Guillermard. Bonsoir, bonsoir à tous les
bonsoir
deux.
À tous.
Et merci d'être là pour ce bilan. En demi-teinte, peut-être on va voir si la déception d'hier soir a été un petit peu digérée sur ce plateau. Mais avant de revenir sur cet épilogue de la Ligue 1, quand même, on voulait commencer cette émission en rendant hommage à Fleury Dinalo qui nous a quitté la semaine dernière. Et regardez ce tifo magnifique hier au Groupama Stadium. Fleury Dinalo, le petit prince de Gerland qui était aussi au Groupama Stadium hier soir, disparu à l'âge de 83 ans, le meilleur buteur de l'histoire du club. Les obsèques auront lieu ce mercredi dans le 7e arrondissement de Lyon, l'église Saint-Antoine à quelques pas du stade de Gerland. Je me tourne vers vous Jean-Edouard et vers vous Edouard parce que vous étiez au stade hier soir. L'hommage était magnifique.
Ouais, alors de toute façon, plus qu'un tifo hommage, c'était en plus un tifo qui était préparé depuis longtemps, que les Bad Guns voulaient faire pour les 100 ans du stade de Gerland. Donc il était prévu comme ça, il n'a pas été modifié, on aurait juste aimé le faire 2 semaines avant.
Pour qu'ils puissent le voir, parce que oui, le 23 mai, à la fin de la semaine, ce sera les 100 ans, l'inauguration de Gerland, ce stade mythique et cet hommage, cette 10e minute aussi avec toutes les lumières dans le stade, Edouard, ça devait être assez prenant.
Oui, et puis la minute d'applaudissement aussi avant le match, c'était joli. Les t-shirts aussi portés par les joueurs avec 10 et le prince de Gerland. Franchement, c'était beau. Ces téléphones allumés, l'hommage à la 9e, à la 10e. Voilà, franchement, c'était un bel hommage. Et puis, nous, ça nous rappelle des choses. Moi, ça me rappelle beaucoup de rencontres avec Fleury Dinalo, avec Bernard Lacombe la dernière fois. On l'avait vu, on avait fait notre émission spéciale au lendemain du décès de Bernard Lacombe. Il était là, il avait tenu à venir.
Oui. Ça avait été dur pour lui, mais voilà, il voulait être présent pour nous raconter.
Exactement.
Il nous disait, c'est trop dur de voir partir Bernard. Il était très ému. Mais c'est vrai qu'on a passé de longues minutes à l'écouter raconter ses souvenirs avec Bernard Lacombe.
Ouais,
c'est
toute
un grand moment.
Ouais, c'est toute une page de l'OL qui s'en va et c'est beau. Et on a hâte quelque part d'être, parce que vous parliez du 23 mai, mais il y a le 6 juin aussi, lors de Loup Montpellier, au niveau du rugby, on va faire une fête foot rugby pour fêter justement ses 100 ans. Et puisque j'étais au match du Loup samedi, quelque chose de bien aussi dans le stade maintenant que l'on voit dans les travées, alors celle où on va nous, où il y a les joueurs, etc. Il y a beaucoup de photos qui racontent l'histoire du stade, avec les concerts. C'est là qu'on voit qu'il y a eu les Pink Floyd, Michael Jackson, etc., etc. Le pape aussi, et puis bien évidemment le premier titre de l'OL. Il y a toute l'histoire du stade, 100 ans, ouais, ça fait de l'effet quand même.
Effectivement, pour ce stade de Gerland. Maintenant, ça se passe du côté du Groupama Stadium. Messieurs, le Groupama Stadium, 10 ans, avec un stade plein hier. Une ambiance de fou pour cette dernière journée qui a été catastrophique, on peut le dire. En tout cas, c'est ce qu'a dit Corentin Tolisso hier, le capitaine. Les hommes de Paulo Fonseca ont été humiliés par une équipe lançoise largement remaniée, pourtant par Pierre Sage. Mais Wesley Saïd va ouvrir le score à la 20e minute de jeu. Le Lensois double la mise à la demi-heure de jeu. Et Florian Satoka va enfoncer l'OL juste avant la pause. 3-0 pour les hommes de Pierre Sage. On croit en la révolte lyonnaise, mais Florian Thauvin va éteindre les Lyonnais de retour des vestiaires pour cette défaite 4-0 de l'OL qui reste quatrième et passera par un tour préliminaire et un barrage de Ligue des Champions. Donc cet été, on va écouter les réactions d'après match au micro d'Edouard.
L'équipe a accusé beaucoup de pression de moments. Et après, on a joué contre une grande équipe qui, les premières 4 fois qui est arrivée dans notre but, a fait 4 buts. Je pense qu'aujourd'hui, on a défendu très, très mal. sans agressivité. Je pense que résultat de la pression de cette moment.
Le match a été catastrophique du début jusqu'à la fin, même si voilà, on a essayé de réagir en seconde période. On est vraiment passé à côté de notre match, de ce match-là, en tout cas un match super important. On savait qu'il y avait encore la possibilité de pouvoir se qualifier pour la Champions League direct. Mais voilà, on va pas. Aujourd'hui, on est quatrième, on ne va pas aussi se plaindre. Et quand on prend un peu de recul, il faut aussi se dire qu'on vient de loin. Après la saison qu'on vient de faire, on a fait une saison où on a eu des hauts, des bas. Et malheureusement, ce soir, là où il fallait répondre présent, on a échoué.
On a entendu hier soir Faisal et Laurent en après-match. Jean-Edouard, je me tourne vers vous pour commencer. Vous êtes d'accord avec Clinton Mata? C'est une soirée catastrophique que vous avez vécue hier soir au stade.
Oui, ils l'ont tous dit. Il y a eu un non-match total de l'équipe. Je pense que, hormis l'ambiance qu'il y avait tout autour, qui elle a été exceptionnelle de la première à la 90e minute, sur le match, il n'y a rien eu qui aurait pu nous pousser encore plus loin. Donc non, ils ont fait un non-match sur ce dernier match qui était hyper important, auquel on pouvait croire à plein de choses. Et encore plus frustrant quand on voit tous les résultats après le match. Nous, on ne les voit pas pendant le match. Mais après match, c'est hyper frustrant.
Vous n'avez pas suivi en tribune pendant le match, entre ce qui se passait à Lille, Auxerre, Marseille-Rennes, vous n'avez rien voulu savoir?
Je ne vous dis pas qu'il n'y en avait pas qui suivaient, c'est sûr. On avait certainement des infos, ouais. Mais on ne voulait pas avoir les résultats finaux. Et la priorité, jusqu'au 2-0, c'était de se dire on fait notre match à fond et on voit après. À 2-0, 3-0, on se dit que on peut regarder ce qui arrive à côté. Mais au départ, non, je pense que vraiment, on était tous concentrés sur le match d'abord, sur le résultat ensuite. Voilà.
Jean-Edouard parle de non-match hier soir. On va pas se mentir, on s'est beaucoup ennuyé pendant cette rencontre. On a vu des beaux buts, mais pas du bon côté, malheureusement.
Exactement.
Paolo Fonseca parlait à votre micro de pression autour de ce match. Comment vous l'expliquez, vous, ce non-match de l'OL hier?
Je suis un petit peu dans le même état que la semaine dernière après Toulouse. Là, j'ai l'impression que j'arrive pas à comprendre. Comment ils n'ont pas pu mettre les doigts dans la prise et se brancher vraiment sur ce match. Alors, en plus, tout allait bien, parce que le clin d'œil du staff lensois, il est quand même formidable. 9 changements par rapport à la dernière, la première titularisation de Florian Sotoka, de Mathieu Gourgelin, bref, beaucoup de
Mathieu
choses.
Mathieu Gourgelin, troisième gardien, normalement.
Exactement.
Titulaire hier.
Et en plus, on voit la première accélération d'Hendrick. Qui fait mettre un carton jaune à Malanxar. Donc on se dit, la Coupe de France est pas loin, il veut pas prendre un rouge. Donc Hendrick, il va lui laisser faire son... Et puis il a l'air d'être dans un bon soir. Et puis à la sixième minute, plus rien. C'est une extinction des feux. Et puis petit à petit, Lens se met en place. C'était vraiment incroyable. Et aucune révolte, comme s'ils n'avaient pas de jus. Peut-être un petit peu à ce qu'on avait ressenti là, lors des 9 matchs sans victoire, là, où il y avait plus rien. Vraiment bizarre. En plus, je crois qu'à ce moment-là, Auxerre ne menait encore pas à Lille, quoi, en fait. Il n'y a même pas eu de... Il y avait eu le 2-0 en Coupe de France, mais il y avait une réaction derrière.
C'est
là,
ce qu'on s'est dit, nous, hier soir, quand Wesley Saïd met ce doublé au bout d'une demi-heure de jeu, que l'OL est mené 2-0. On se dit, pour le moment, l'OL est endormi, il ne se passe rien. Mais ils l'ont fait en Coupe de France. Il va se passer quelque chose, ce n'est pas possible. C'est la dernière journée de Ligue 1, il va y avoir un réveil. Il n'est jamais venu, Laurent.
On l'a dit, quand on commentait la rencontre hier, effectivement, on s'est dit on est mené 2-0, mais tout est encore possible. On se rappelait du scénario en Coupe de France. Et puis, je ne voyais pas Lyon, honnêtement, perdre, parce que, comme le directeur, il y avait tous les événements extérieurs, la fête au stade, le décès de Fleury Dinalo, l'hommage.
L'équipe d'en face.
Tout le monde avait joué le jeu
l'équipe
en blanc.
L'équipe B d'en face.
L'équipe C en face.
Non, quand même pas.
Et
c'était plutôt moi, Lille-Auxerre, qui me préoccupait plus, parce qu'on dépendait de ce match-là, que la victoire lyonnaise face à Lens. Et pour moi, les Lensois avaient la tête déjà à cette finale de Coupe de France. Et je pense que peut-être du côté de Lyon, on se l'est dit aussi, et on a pris peut-être le match trop facilement.
Trop de facilité dans les têtes. Je pense que le match, il n'a pas été préparé comme une finale du championnat. Malheureusement.
Oui, parce que même Afonso Moreira, on ne l'a pas vu faire le match qu'il devait faire.
Il a bien été pris.
Franchement.
Je ne sais pas, pourtant, ils ont dit qu'on a bien préparé le match toute la semaine.
Hier, Corentin Tolisso dit qu'ils sont bien préparés, que mentalement tout est bon. c'est pas ce qu'on.
Bah après, peut-être que mentalement, ils sont après, alors qu'ils voulaient dire le contraire, match de Toulouse a tout cassé d'une certaine manière.
Oui, mais
voilà, après, il y a des ressorts. Mais preuve aussi, peut-être qu'il n'y a pas encore les cadres qu'il faut pour motiver. Pas assez de cadres, parce que même Corentin Tolisso n'était pas au rendez-vous hier.
C'est plus grosse déception de la soirée. Corentin Tolisso, on attendait beaucoup de lui avec son statut de capitaine, la saison qu'il a faite, de ne pas avoir réussi à prendre le leadership et avoir.
Sa non-sélection aussi.
Sa non-sélection dans la semaine, ça peut peser.
Ouais, ça a peut-être été un coup sur la tête. C'est lui qui a l'habitude de nous porter et d'emmener l'OL un peu plus loin, un peu plus fort. Il le fait malheureusement après le match parce qu'il prend quand même la parole devant les supporters et ça je trouve que la prise de parole est quand même belle. Mais pendant le match, il porte pas l'équipe, donc c'est sûr qu'on.
Mais c'est à l'image de la saison. Hein. On a vu quand il était absent ou moins bon, Lyon allait mal. Et sur le match d'hier, ça résume malheureusement la saison, l'inconstance et Tolisso qui est.
Et surtout, ça résume la saison. À chaque fois qu'il y a eu des tournants où on aurait dû faire des différences, on les a pas faites.
Après, il y avait pas Tyler Morton. Aussi, peut-être que c'est là aussi qu'on voit au milieu de terrain, il n'y avait pas
Déjà, il y a eu un problème de composition d'équipe, déjà. Parce que l'animation au milieu de terrain.
On y vient justement, Faisal, parce que vous parlez des joueurs là depuis 5 minutes. Cette défaite, cette humiliation hier soir, cette claque, vous l'appelez comme vous voulez, 4-0 contre Lens, c'est la faute des joueurs ou c'est la faute de Paulo Fonseca et notamment des choix qu'il a fait dans sa compo d'équipe avec un Hamner au milieu de terrain.
Dans un premier temps, c'est sûr que c'est Paulo Fonseca, parce que c'est lui qui met les joueurs sur le terrain, mais dans un second temps, c'est les joueurs qui sont sur le terrain aussi. Donc la faute, elle est partagée. Mais on va dire que si on vraiment doit sortir une partie, on va dire c'est la partie Fonseca, parce que c'est lui qui met les joueurs sur le terrain. Et donc il les met pas dans les meilleures dispositions avec le milieu de terrain qu'on a vu. C'est pas possible. Il y a des choses qui ont fonctionné à l'OL avec des joueurs qui n'ont pas été présents hier.
Pourquoi il fait ça, Edouard? Dernière journée, il y a de l'enjeu. Il propose un système des joueurs en rose inédit.
Il voulait peut-être compenser au milieu de terrain le fait qu'il n'y ait pas Tyler Morton, Aurel Mangala qui revenait mais qui n'était pas forcément en pleine forme. S'adapter au 3-4-3 adverse. Moi, on m'a toujours dit que quand on s'adapte à l'autre, c'est déjà qu'on envoie un message comme on est en dessous, psychologiquement parlant. C'est assez, d'une certaine manière, assez incompréhensible. La même compo, d'une certaine manière, ça avait marché à Paris. Voilà, donc.
C'est pas le même.
On est d'accord. Je veux juste insister parce que je suis resté de longues minutes après le match avec le staff de Lens. Et parce que c'était assez paradoxal l'après-match hier. Il y avait des vainqueurs qui étaient, d'avoir gagné, totalement gênés.
Pierre Sage va relever des joueurs de l'OL abattus à la fin du match. C'est incroyable. Va voir les joueurs de l'OL, c'est assez dingue.
Donc ça, les vainqueurs qui sont totalement gênés, les vaincus qui sont partagés, parce que il y a de la honte, mais il y a quand même cette fameuse quatrième place, on en reparlera tout à l'heure. Et puis finalement, le public, moi je m'attendais à une bronca, je me dis ils vont peut-être annuler le show pyrotechnique, le tour d'honneur, non. Alors c'est maintenu parce qu'on peut comprendre, c'est tout mis en place, et puis il y a quand même une place européenne au bout, mais alors que le public accueille comme ça les joueurs, que Paulo Fonseca est une... les sanglots, c'est magnifique, c'est beau, mais moi j'ai vu il y a quelques années une qualification directe en Ligue des Champions où le stade était retourné. Donc il y a des choses qui sont... Hier c'est un mix, un panel de sensations quelque part au mètre carré. Je me suis cru en Islande en été, parce que quand vous passez l'été en Islande, vous avez un temps qui change presque d'une minute à l'autre. Sur un quart d'heure, vous pouvez avoir une grosse averse, du vent, tout s'arrête, finalement vous avez du soleil un peu chaud, etc. Hier c'était un peu tout mix de sensations assez incroyable.
Je pense que c'est surtout, comme tu dis, c'est le degré d'exigence qui a baissé. Parce que des qualifications directes où le stade il est retourné, et là une quatrième place où tu n'es vraiment pas sûr d'aller en Ligue des Champions, et c'est fêté. Donc c'est qu'au bout d'un moment, l'OL, on va dire, on est rentré dans le rang, on est un club comme les autres, on n'est plus un club du haut de tableau. Si on arrive à faire ça, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis.
Après, juste aussi pour avoir discuté aussi avec le staff, ils notaient les stats aussi, c'est incroyable hier. Les stats, elles veulent absolument rien dire, on est d'accord. Hein. 4-0, quand on regarde le match, il n'y a pas photo. Pas photo. Et sur les stats, 4 tirs cadrés pour Lens, 4 buts. Pour Lyon, 17 tirs, 5 cadrés, 0 but. Et même sur les fameuses expected goals, les potentiels buts, Lens est à 1,56, alors c'est des calculs incroyables, et Lyon à 1,77. Et finalement, ça se fait 4-0. Et comme le...
Mais c'est ces soirées où on se les voilà dit, le fin premier, de match, voilà, il peut se passer ce que vous voulez, le ballon ne rentrera pas.
Voilà, exactement.
Là, on le voit sur la barre.
Ouais, la barre, et puis à un moment donné, chez eux, bah, Sotoka, il marque son premier but de la saison. Quoi. Voilà, donc...
Ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont fait hier, notamment le staff lensois. Mettre l'équipe qu'ils ont mis, comme on disait hier, si à partir de ce moment-là, l'OL n'arrive pas à gagner, lance ce lance-là à domicile, sur une dernière journée de championnat, avec les enjeux qu'il y a, je suis désolé, on n'a rien à faire en Coupe d'Europe.
Après, il peut y avoir aussi une autre lecture, c'est que le staff de Lens fait super bien le travail, parce que les principes de jeu sont respectés par l'équipe A, par l'équipe B, voire par l'équipe C. Quoi, en fait, c'est,
mais les principes...
Et les joueurs, c'est quand même pas des joueurs moyens, quand même.
Non, mais quand même, ce qui était sur le terrain hier, c'est moyen par rapport au niveau de la Ligue 1, quand même, c'est moyen. Mais les principes, ils sont respectés, ça t'a donné cette sensation, parce qu'en face, il n'y avait pas d'adversité, il n'y avait rien. Mais si on met une équipe, par exemple, je ne sais pas, une équipe un peu plus... on va dire pressante, un combative, peu plus combative. Bah, je pense pas qu'il fasse le même match Lens. La qualité, là, tu vas vraiment voir la qualité des joueurs.
Parce que Lens a fait aussi déjouer le peu de jeu que voulait faire mettre en place.
Mais c'est normal. On a remplacé Morton par Abner. Morton, c'est un joueur quand même. C'est une qualité technique au-dessus de la moyenne. Je sais pas. Moi, la première idée qui me vient, c'est de mettre le petit Mera. C'est la qualité technique aussi, c'est pareil. On remplace par à peu près son pareil. Non, là, on a mis Abner, qui est l'habitude latérale, qui était là, je sais pas.
Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a vu que ça allait pas dans les premières minutes de jeu et qu'il a pas réagi en ajustant l'équipe tout de suite. Et du coup, bah, ça a continué. Il y a eu ces changements à la mi-temps, mais il y a eu 3-0 à la mi-temps, c'était déjà trop tard. À 3-0, c'est compliqué.
Et au final,
Morton qui a une pubalgie. Hein, ouais. Donc on espère qu'il passera pas sur la table d'opération, parce que là, ça peut être compliqué pour la suite.
Et au final, Pierre Sage qui fait un sans faute pour ses deux retours à Lyon cette saison en Coupe de France et hier en Ligue 1. Ces deux victoires pour Pierre Sage, qui avait été remercié par notre cher ami John Textor en milieu de saison dernière.
Pour quelle raison ?
Remplacé par Paulo Fonseca.
Pour quelle raison ?
Bah parce qu'il fallait mettre.
Parce qu'il fallait aller en Ligue des Champions. Ouais. Et mais merci. Donc, remercier. Et là, aujourd'hui,
Fonseca
qui est toujours pas lui non plus en Ligue des Champions. Donc, si on suit le raisonnement, normalement...
Comme avec Lille, il n'arrive pas à qualifier un club directement pour la Ligue des Champions.
Je me suis mis une règle pour cette dernière, de ne pas citer.
Ça va être compliqué.
Voilà, donc je te laisse citer.
Mais c'est la vérité. On a remercié Pierre Sage parce qu'il n'était pas dans les soi-disant temps de passage pour aller en Ligue des Champions.
Parce que son nom n'était pas clinquant par rapport...
Et qu'il y avait l'occasion, là, c'était le moment où Fonseca pouvait arriver. Donc il l'a fait. Tout était réuni, et c'est ce qui est rageant, on l'a dit, messieurs, hier soir, puisque Lille a été battue par Auxerre, que Rennes a perdu à Marseille. Donc cette troisième place semblait tendre les bras aux Lyonnais. Bon, finalement, c'est cette quatrième place. On va peut-être écouter, pour clore cette partie, Paolo Fonseca. Vous l'avez interrogé, évidemment, sur cette quatrième place, sur la relation avec les supporters tout au long de l'année. Écoutez l'entraîneur de l'OL.
C'était magnifique, cette saison, les connexions avec notre supporter aujourd'hui, avec cette atmosphère incroyable. Je pense qu'ils ont mérité un plus aujourd'hui, mais nous devons reconnaître que à la fin, une magnifique saison de notre équipe. Et je pense que les supporters, on reconnaît aussi le mérite de l'équipe. Mais qu'est-ce que j'ai à dire, que nous ne pouvons pas oublier comme on a commencé la saison, comme était la saison, avec beaucoup de difficultés. Et être quatrième est magnifique.
Aïe Faisal.
Allez, vas-y, lâche-toi.
Il parle de ce qui s'est passé en début de saison. Pour vous, c'est terminé, on n'a plus le droit d'en parler.
C'est interdit.
Il utilise cette expression, c'était magnifique.
Ah, magnifique.
Allez-y.
Bah déjà, là, il fait un peu du Luis Enrique par rapport aux supporters. À chaque fois, il parle des supporters, grâce aux supporters. Donc, il fait un peu du Luis Enrique. Deuxièmement, il nous parle de la saison magnifique. Mais si on fait le bilan de la saison,
on va y arriver.
L'Europa
justement.
League, soi-disant qu'on devait gagner, on n'a rien gagné. La Coupe de France sans le PSG, qui on devait aussi, pareil, la gagner, on n'a rien gagné. La Ligue des Champions en championnat, ben pour l'instant, on n'y est pas. Il défend juste son bilan, proprement. Pour lui, voilà, ben moi je suis arrivé, on est quatrième, super, tout va bien dans le plus beau des mondes. On vient de la Ligue 2. Mais comme je disais hier, tu as un plan de route sur la saison. Tu as des objectifs. Si maintenant ton objectif c'est le maintien, mais toute l'année tu es dans les 3, allez, 5 premières places, tu peux plus dire que je joue le maintien. Tu es obligé d'adapter tes objectifs tout au long de la saison. Donc là, nous, nos objectifs, c'était aller en Ligue des Champions. Au bout d'un moment, dans la saison, c'était aller en Ligue des Champions. Pour le moment, on n'y est pas. Moi, je suis désolé, on ne peut pas dire que c'est une saison magnifique.
C'est pour ça qu'il y a de la déception, du coup. Bah parce que là, on serait tout content d'être quatrième. Mais vu les circonstances et l'évolution, on est forcément déçus aujourd'hui.
Eh bien, messieurs, on en vient au bilan de cette saison de Ligue 1, justement, avec une question ce soir. Que retenez-vous de la saison de l'Olympique Lyonnais? Vous me dites en un mot et après, on développe.
L'inconstance.
Des beaux moments quand même.
De la frustration.
De l'émotion.
Allez-y.
Non, ben forcément, ça va pas te faire Faisal, mais on va parler de toutes les émotions par lesquelles on est passé tout au long de la saison. On l'a commencé il y a environ 10 mois, tous ensemble sur le plateau, à se dire, ouf, on est maintenu. On est en Ligue 1, super, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec un projet qui était pas du tout là, avec des joueurs, on ne savait pas quel avenir on allait avoir. On commence la saison et puis on a ce début de saison mitigé. On a ces 13 matchs victorieux consécutivement où on se dit c'est exceptionnel, on va être champion de France. Et puis ensuite un passage à vide de 9 matchs où là on retombe et finalement on préserve quand même la 4e place.
Alors, les montagnes russes, c'est un peu.
C'est un peu lyonnais, hein, ouais, de toute façon.
Ces dernières saisons, c'est un peu
l'habitude. C'est l'habitude. Et bon, après, moi je trouve quand même qu'on fait une belle saison. C'est pas le résultat qu'on veut à la fin, mais le point qu'on a en retard, et ben on le perd pas qu'hier non plus. On le perd il y a une semaine, on le perd dans cette période de 9 matchs, on le perd peut-être en début de saison. Donc pas de regret si, quand même un petit peu, mais on reste quatrième et début août ils vont reprendre le travail un peu plus tôt et nous on va reprendre le chemin des tribunes un peu plus tôt et on sera en déplacement.
29 juin, la reprise, Corentin Tolisso l'a dit hier, reprise de l'entraînement, ça fait un gros mois de vacances pour les Lyonnais. L'émotion est là, mais c'est vrai que sur cette... Qui m'a dit frustration? C'est vous. Il y a ces moments clés dans la saison où l'OL n'a jamais réussi à faire la différence et à prendre le large quand l'OL aurait pu verrouiller cette troisième place bien plus tôt dans la saison.
Mais qu'on soit bien clair déjà sur quelque chose, moi je ne dis pas qu'il faut oublier qu'on était en Ligue 2, mais ok, d'accord, il y a eu des problèmes et tout, mais après ça y est, ça, c'est passé, c'est fini,
on n'en parle plus.
Après
non,
c'est terminé.
C'est pas passé.
Quand tu vois la saison, comment elle se déroule, tu peux pas à chaque fois rabâcher comme une excuse, ouais mais on était en Ligue 2, ouais mais on n'avait pas d'argent, ouais mais... Par contre, quand il y a eu 13 matchs consécutifs victorieux, personne n'a dit on était en Ligue 2 il y a deux semaines.
Je suis d'accord avec vous, Faisal. La frustration, elle est là. Mais quand même, il y a de belles choses à retenir de cette saison.
J'ai pas dit que c'était une saison.
Il y a cette
4e
place, d'accord, il y a le barrage, il y a le tour préliminaire barrage de Ligue des Champions. Frustrant.
Frustrant parce que quand à Marseille, on doit prendre 8 points d'avance et qu'on ne les prend pas. Quand Lille, à un moment donné, est à 11 points de la 3e place. Moi, sur un niveau comme ça de Ligue 1, ne pas finir troisième avec la saison qu'on réalise cette année, moi, franchement, je suis déçu.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on met de côté le Paris Saint-Germain qui est à part dans cette Ligue 1 mais
même Lens, cette année.
Lens,
il faut les mettre de côté.
Lens qui n'avait que le championnat à gérer. Hein.
Oui, ouais, Lens et Lyon sont peut-être les deux équipes qui ont produit le plus de jeux, qui étaient les plus...
Il y avait des équipes quand même qui produisaient du jeu. Après, de là,
il y avait un vrai projet, quelque chose qui s'est construit cette saison, une identité de jeu.
C'est ces moments, notamment quand on était dans la découverte, parce que je te rejoins. Après, il y a un moment donné où il y a de l'exigence, parce qu'on imaginait le maintien. Finalement, tu commences à gagner à Lens. Tu gagnes face à Metz, le deuxième, je crois. Derrière, face à Marseille.
4 victoires sur les 6 équipes au-dessus.
Au départ, tu es sur ce schéma-là. Et moi, je me retrouve encore, quand je replonge un peu là-dedans, à ces moments où cette équipe, non seulement elle jouait bien, c'était beau à voir les ressorties de balles, mais elle faisait déjouer aussi les autres.
Exactement.
Et ça, c'était vraiment beau. Alors après, il y a eu l'accumulation de matchs. Et comme l'a dit Mathieu Louis-Jean hier soir, il n'y avait pas forcément la profondeur de banc pour pouvoir tout jouer. Donc, à un moment donné,
saluons aussi le travail de Paulo Fonseca, même s'il peut être critiqué sur certains choix faits cette saison, l'équipe qu'il fait, les performances qu'il fait tout au long de la saison, cette identité de jeu et surtout les blessures, vous le dites, il n'y a pas la profondeur de banc qu'il y avait la saison dernière. Il y a eu de nombreux blessés, il a dû
composer
cette saison quand même, faire des 11 avec pas grand monde. Là, il a été chercher des jeunes. Malik Fofana se blesse, Afonso Moreira, c'est la révélation. Il y a quand même, merci Paulo Fonseca.
Merci, sur les deux derniers matchs, quand tu as tout ton effectif, tu ne gagnes pas un point. Moi, faut m'expliquer à un moment donné. Parce que, attention, Fonseca a fait du bon travail. À un moment donné, on était tous là, en train de rêver. On était premier d'Europa League. On avait encore la Coupe de France à ce moment-là. Championnat, on était bien. Au final, on n'a rien.
On voit que la mayonnaise a bien pris, justement, avec les éléments qu'il avait sous la main. Et qu'on voit qu'on fait quand même le plus beau parcours en Europa League, qu'on se fait sortir directement après. Ouais. On parlait tout à l'heure de la Coupe de France, Paris et dehors. On se dit, on reçoit Lens à domicile. C'est pour ça que, en fait, la mayonnaise a bien pris. Et cette année, pour moi, il y avait moyen d'avoir un titre que Lyon a
tenté. Après, le problème, c'est qu'il faut, encore une fois, faut avoir le courage de la nuance. Ok. Lyon était premier en Europa League, mais souvenez-vous, je ne les ai plus en tête, des 7 équipes que Lyon a jouées ont fini au-delà de la 23e place sur 32. Donc déjà, il y a eu un coup au tirage au sort qui était quand même assez favorable à ce moment-là, et on ne sait jamais... On a toujours eu l'effectif. Alors, tu disais que oui, on ne parlait pas de ce qui se passait l'été quand il y avait les 13. Si, dans les conférences de presse, on parlait toujours de mesures, que ce soit dans le bon ou les mauvais.
Mais les équipes qu'on a gagnées en Europa League, déjà d'une, il faut les gagner. Et surtout, rappelle-toi des fois avec qui on les a gagnées. Des fois, on avait mis des jeunes sur le terrain. On est parti gagner des matchs où ils étaient tournés, on a gagné. Moi, j'enlève pas le mérite.
C'est un mérite.
Donc, les retours de blessés là, il fallait les laisser sur bon et continuer sur les deux derniers matchs avec.
Les retours de blessés, il n'y a pas eu beaucoup qui ont joué. Hein. Il y a eu Schulz et Kluivert hier soir.
Oui, mais par exemple.
Les autres, il n'y a pas. Malik Fofana, il n'est jamais vraiment rentré. Ernest Nouama, des bouts de.
Mais par exemple, contre Paris, tu mets une composition d'équipe. Paris, c'est quand même, la meilleure équipe du championnat quand même.
Oui, mais Paris, tu as un alignement.
Pas de problème,
tu n'as pas hier soir.
Derrière. Tu joues Lens, qui est quand même la deuxième meilleure équipe du championnat. Et pourquoi tu nous fais ça?
Peut-être la réponse, restez bien avec nous. Pourquoi ils ont fait ça hier soir? On se retrouve dans un instant. Voilà,
c'est bien
parfait.
Vendu.
De répondre à cette question. A tout de suite. On est de retour pour la dernière de la saison de Cop Gone. Et oui, ça passe vite, mais si on fait le bilan ce soir ensemble de cette saison, que retenez-vous de la saison de l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'on retient aussi, messieurs, vous n'en avez pas parlé, mais la saison de Corentin Tolisso?
Absolument.
Oui, sa meilleure saison.
Absolument. Et on retient aussi sa non-sélection, qui pour moi est pas juste.
C'est pas juste, et pour vous, ça aussi peut être en lien avec sa prestation
hier
soir.
Pour moi, c'est sûr. Et on l'avait dit hier avant le match, pour moi c'est une certitude. Parce que déjà quand on voit la story qu'il met, pour dire comme quoi,
qu'il
se voyait qu'il y croyait, qu'il pensait qu'il allait y aller.
C'est sa meilleure saison avec 15 buts, et puis sur les 4 derniers matchs, c'était quand même 4 buts et 3 passes décisives pour Corentin Tolisso. Et on disait tout à l'heure, quand il n'est pas au niveau, l'équipe ne va pas, et on voit sur les 4 derniers matchs, il a été là quand on a gagné.
Et sur la dernière mission, on disait qu'il n'y a pas vraiment de réel patron dans cette équipe, à part Tolisso. Hier, faillite de Niakate, soi-disant un cadre, que moi j'avais dit que pour moi c'est pas un taulier. Quand ça va pas, il faut qu'il y ait des joueurs quand même qui prennent le relais du coach sur le terrain. Et hier, si on l'a pas vu, c'est qu'il n'y en a pas.
Edouard, pas de suspense, Corentin Tolisso sera là le 29 juin à la reprise de l'entraînement.
Oui, oui, je vois pas. Il a encore un an de contrat.
Il l'a dit dans la conférence de presse.
Il n'y a pas de souci. Ouais.
Il veut aller chercher ce titre, ce trophée avec l'Olympique Lyonnais.
Après, il veut quelque chose. Il veut ramener quelque chose.
J'ai souvent des gens qui, dans les yeux, nous disent des choses.
Mais bon, le lendemain, à son âge, je sais pas, non.
Ouais, un mec avec un chapeau, une fois.
Non, je pense qu'il veut.
Pas de nom, on a dit Edouard. Pas de nom.
Il va avoir le dernier objectif et je pense que de toute façon il va tenir le club l'année prochaine, il va le tenir pendant l'intersaison et je pense qu'en tant que supporter et même en tant qu'amateur de foot, on peut compter nous sur Corentin Tolisso.
Moi je crois qu'il l'a dit même dans une story, alors là on peut parler de vraiment de, pas d'honnêteté mais en tout cas de sincérité avec Alexandre Lacazette qui lui demandait viens en Arabie Saoudite.
Il m'a dit je suis un peu plus jeune que toi, j'ai encore 2-3 ans, on verra. Et surtout, je veux gagner quelque chose avec mon club de cœur. Et c'est pour ça qu'il est revenu. L'intersaison, justement, va être mouvementée, notamment avec cette quatrième place, synonyme de tour préliminaire début août, du barrage autour du 18-19 août. Edouard, j'ai un truc à vous dire à ce sujet. Et oui, parce qu'avant de penser. Non, c'est moi qui. Non, c'est pas vous, j'ai un lancement à faire.
C'est
personne.
À toi d'écouter.
Non, mais j'allais dire, Edouard, j'ai peur, moi.
Parce qu'on va essayer de voir quel OL il y aura à la reprise, mais pour cela, il faut s'intéresser au chantier de l'intersaison.
Oui, il y en a beaucoup. Alors, ça va être moins anxiogène que l'année dernière. Je vous rassure. Il ne faut jamais dire jamais, mais quand même, il n'y aura pas de rétrogradation un 24 juin au soir en administrative en Ligue 2. Reste que pour paraphraser un Premier ministre que vous avez peut-être connu, sauf si vous êtes trop jeune, en 2002, Jean-Pierre Raffarin, qui a inventé les raffarinades. Vous savez, c'est un peu des lapalissades. Et Jean-Pierre Raffarin, quand il a pris la tête du gouvernement, il avait cette phrase « Notre route est droite, mais la pente est forte ». Ben, j'ai l'impression que cette formule va s'acclimater et va être pour Mathieu Louis-Jean au niveau du sportif, parce qu'il va falloir en parler. Le mercato, il va falloir être malin, organisé dans un premier temps, parce qu'on est encore un peu fauché. Mais surtout, c'est à l'étage de la comptabilité que tout cela va être important. La to-do list de Michael Gerlinger et de Michel Kang, elle a des allures d'Himalaya bancaire. Retenez quelques chiffres, je vous les résume. 150 millions d'euros à trouver d'ici le 30 juin 2027. Ça nous laisse le temps de faire une petite cagnotte.
Une petite année,
voilà. Donc 87 millions avant le 31 décembre prochain. Voilà, donc déjà, il faut trouver cet argent-là. Il faut aussi gérer quelques 133,2 millions de dettes qu'a laissé un certain homme au chapeau. Il faut gérer avec les créanciers. Est-ce que je les laisse? Est-ce que je les abandonne? Est-ce que je les reporte? Voilà, le tout sous le contrôle de la DNCG et de l'UEFA. Et puis surtout, il va falloir faire quelque chose de juridiquement qui prendra du temps. C'est la vente de l'OL, parce qu'on en est dans la finalité du démantèlement de la galaxie de John Textor. Donc, mince,
il l'a dit.
De Eagle Football. Ça y est, je vais faire 15
cartons rouges.
Donc, il faut tout réorganiser. Vous savez qu'il est parti, on l'a viré de la holding de tête. Du coup, on est en train de vendre. Il y a une commission ad hoc qui a été mise en place par l'OL. Il y a des acheteurs. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup de supputations partout. Non, mais le duo, normalement, qui devrait reprendre, c'est Arès, le prêteur de John Textor et Michel Kang, parce que finalement ce duo a fait du bon boulot depuis l'été dernier. Les comptes semestriels sont tombés la semaine dernière. Certes, il y a encore les dettes qui plombent, mais si on regarde juste la gestion du nouveau board, eh bien, on est presque à l'équilibre, 2,2 millions de déficit. Donc de ce côté-là, ça va mieux. Donc on espère que ça va aller mieux. Vous avez compris ce que ça voulait dire? Que la route est droite, mais que la pente est forte.
On a compris.
Voilà. Donc,
merci, Edouard.
Tu retiens ça pour l'année prochaine ?
J'ai bien retenu et j'ai bien peur encore. J'ai encore plus peur maintenant que j'ai écouté.
Vous avez encore plus peur, mais quel OL à la reprise maintenant ? C'est la question, parce qu'Edouard l'a dit, il y a de nombreux chantiers. Et surtout, avec cette quatrième place, il faut construire un effectif sans savoir si ce sera la Ligue des Champions ou la Ligue Europa la saison prochaine. C'est là le vrai travail de l'intersaison pour notamment Mathieu Louis-Jean.
Après, dans une cellule de recrutement, il y a toujours différents schémas, différentes hypothèses. Donc je pense que...
Ils ont déjà travaillé avant même le match
en amont
France.
Sur ce qui pouvait arriver. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est avec qui repartir. Parce que comme, si j'ai bien écouté, il fallait trouver 90 millions à peu près avant le 31 décembre. Donc ce qui veut dire qu'il faut vendre. Et quand tu es en position de faiblesse dans le foot et que tu dois vendre, tu ne vends pas au prix fort. Donc qui vendre? Combien de joueurs vendre pour essayer d'éponger un peu cette dette de 90 millions.
C'était un peu déjà le problème l'été dernier, où on savait qu'il fallait forcément se séparer de plusieurs gros joueurs pour essayer de faire rentrer de l'argent. Ouais. Là, on va se retrouver face à la même problématique.
Ce qu'il y a, c'est que Fofana, cette saison, n'est pas vendable comme l'année dernière avec sa blessure déjà. Donc là, on a
alors, j'ai vu que sur Transfermarkt, elle est un peu la bourse, il vaut encore 30 millions.
Mais 30 millions, ça veut dire, comme disait Faisal, qu'on va le vendre 20. Parce que les clubs sont à l'affût. Et si on le vend déjà 20, c'est bien, très bien.
On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui sont sollicités. Afonso Moreira, Pavel Sulch, Edouard. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se donner une idée? Est-ce qu'on a une idée de qui pourrait rester, qui pourrait partir à l'OL?
Non, c'est pour l'instant assez flou. Alors, les dirigeants le savent, mais rien ne filtre à ce niveau-là. Après, cet argent, certes, il va venir et il doit venir de la vente de joueurs avant le 30 juin, sachant qu'il faut que la vente soit effective pour passer devant la DNCG, parce que la DNCG veut un interlocuteur bien identifié. Mais on aussi, autre, c'est pour ça que ça va être un petit peu délicat à suivre, et puis aussi pour Mathieu Louis-Jean et tout le staff à mettre en place, parce qu'on se souvient, je vous en avais parlé, le dernier jour du Mercato, il y avait une proposition, vous imaginez, à 30 millions d'euros pour Ruben Kluivert, 30 millions d'euros de Crystal Palace. Et ce n'était pas les arrangements de l'homme au chapeau, parce qu'il était déjà plus dans le deal. Mais Michel Kang, elle a refusé au dernier moment. Donc, d'une certaine manière, elle a pu se passer à ce moment-là de 30 millions d'euros. Donc, voilà comment ça va fonctionner. Ouais. Mais clair, net et précis, il va falloir qu'il y ait des joueurs qui partent. Mais par exemple, parce qu'on va payer le taxi pour Tanner Tesman, qu'il aille à l'aéroport pour
on va donner de l'argent au club qui va le récupérer.
Bah voilà, mais justement, on va donner
problème,
de l'argent.
C'est qu'on va perdre de l'argent sur cette histoire.
Exactement, t'as raison.
Attendez, attendons 3 minutes avant d'ouvrir le dossier Tanner Tesman, si vous me le permettez.
J'ai plus envie de l'ouvrir, ce dossier.
On va l'ouvrir dans un instant, une bonne fois pour toutes. Messieurs. Mais c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que ça va nous occuper les prochaines semaines. On va avoir encore des choses à raconter sur l'OL. Mais restons sur le bilan et justement, ouvrons le bilan des top flops de cette année. Je vous ai demandé qui étaient vos tops et vos flops sur la saison, parce qu'on a dit qu'on oubliait le match de hier soir et qu'on se concentrait sur toute la saison.
C'est mieux.
Du côté des tops, on en a parlé. J'ai du Tolisso, j'ai du Moreira, j'ai du Dominic Graef, j'ai du Pavel Sulch notamment. Tolisso, Moreira, à l'unanimité chez tout le monde, il n'y a pas débat.
Bah non.
Tolisso en patron et en révélation, j'ai envie de dire, Moreira.
Le seul débat qui puisse y avoir, c'est la non nomination de Moreira au trophée UNFP pour révélation du championnat.
Et Afonso Moreira, il y a cet aspect révélation, mais moi je note et je pense que dans la galaxie des joueurs que j'ai vu arriver, à part Karim Benzema.
Non, mais
Edouard, à ce que
j'ai
vous
peur, ouais, j'ai peur là de ce que tu vas dire. Parce que
c'est le joueur qui a le plus progressé sur. Parce que lui, il est arrivé, on va dire, vraiment au mois d'octobre. Sur les 5-6 derniers mois, en 3e division du Portugal l'année dernière, c'est Paulo Fonseca qui le dit à chaque fois. C'est pas péjoratif, mais s'il le dit, c'est qu'il y a bien un niveau. Et pour arriver là où il est.
Et il assume totalement sa place, parce qu'on voit.
Rappelons-le qu'il arrive et qu'il prend la place de Malik Fofana qui était censé être, malheureusement il s'est blessé, la star de cette équipe.
Mais on n'a pas vu l'absence de Fofana au final.
Non, mais exactement. Ouais.
Mais c'est pour ça que moi je le vends tout de suite. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner l'année d'après. Tu peux avoir une saison où tu es en feu, on va dire. Mais après, c'est la confirmation. Et on l'a acheté 2 millions. Là,
il faut le vendre cet été.
Il y a une belle plus-value à faire. Surtout qu'il y a Fofana qui revient.
On l'a vu d'ailleurs très ému hier soir au coup de sifflet final. Ça veut dire quoi? C'est cette émotion, ces larmes, justement. C'est un possible adieu au groupe Stadium.
Hier soir, quand je vous disais qu'il y avait vraiment un mix de sentiments, je pense qu'il n'y avait aucun joueur qui voulait faire le tour du stade. Même si, encore une fois, ils avaient en tête que l'été dernier. Et que c'est bien d'avoir cette vue sur la Ligue des Champions à 4 matchs. Il y avait cette donnée-là. Alors, c'est vrai
qu'il surinterprète pas ses larmes.
Non, je pense qu'il n'y en avait aucun.
Je ne sais pas, je ne le connais pas assez.
Je pense qu'il est jeune aussi. Donc, il a tout relâché à la fin du championnat. Peut-être, c'est peut-être aussi juste ça.
Les flops, messieurs. Alors là, j'ai du Hensley Maitland-Niles, j'ai du Tanner Tesman, j'ai du Clinton Mata et j'ai du Adam Karabek également.
On l'a oublié.
C'est juste oublié de mettre Tanner Tesman.
Mais même moi. Après, j'ai dit, allez, vas-y.
Vous m'avez mis un Satriano aussi dans les flops.
Mais pourquoi il a fait un mois? Parce qu'il était nul. Sinon, il aurait fait plus de temps.
Maitland Niles, Tessman, Mata, vos flops sur les joueurs.
Maitland Niles, il y a aussi de la frustration parce que quand on voit ce joueur, ce qu'il peut avoir dans des moments de fulgurance.
Mais il a eu des bons matchs aussi.
Ancien joueur d'Arsenal.
Et qu'il ne l'ait pas, qu'il ait des chutes de tension comme ça, des absences. Alors c'est vrai que s'il était tout le temps au niveau de ses fulgurances, il serait pas là. Franchement, une déception par rapport au potentiel. Ouais. Autant un Tanner Tessman, tu sens qu'il est limité.
Tu peux pas être déçu.
Voilà. tu peux pas être déçu.
Vous êtes gentil.
Vous
êtes gentil.
Il retourne au football américain. On va le vendre.
Attention aux adjectifs utilisés. Vous savez, les journaux intimes, tout ça. Il y a eu un
truc. Il
faut faire attention aux adjectifs qu'on utilise.
Mais Tanner Tessman, juste à titre perso, c'est quand même la première fois que je n'aime pas un joueur aussi de façon aussi forte.
Je crois que Faisal vous remonte.
Au début, il était pas.
Souviens-toi, en début de saison, il avait fait des.
Oui,
des
bons matchs. Il a été dans les tops quelques fois.
Parce que Morton le couvrait énormément. Morton l'a tiré beaucoup vers le haut. Et
à un moment donné, je t'ai même entendu dire l'avenir, c'est Morton. Tolisso, Tessman, le milieu de terrain.
On va sortir toutes les bandes. C'est impossible, j'ai jamais dit ça. Mais par contre, Karabek, c'est une erreur de casting aussi.
Mais il a disparu en fait. C'est pour ça le mettre en flop, il a même plus trop joué, on l'a pas vu.
Donc quand tu joues pas, t'es un flop.
Et la déception, c'est aussi Rachid Ghezal.
Aussi, ouais,
c'est
aussi
sympathique. Un retour manqué. Mais Karabek, ça dessine quand même. D'un côté, il y a cet échec, parce que c'était une pioche. Comme un Pavel Schultz, comme un Tyler Morton, repéré, et puis finalement ça fait pas l'affaire.
Ça marche pas tous les coups.
Ça marche pas.
Mais dans l'ensemble, ça a bien marché quand même.
Voilà.
Ils ont fait du bon travail, on va dire, quand même, la cellule.
Parce qu'ils étaient en Ligue 2.
Messieurs, dans le débat, parce qu'on a encore le bilan du national à faire avec Laurent, mais on va reparler de l'OL, vous inquiétez pas, pendant l'été. On suit tout cela sur BFM Lyon, dans Bonjour Lyon, dans Bonsoir Lyon, vous aurez toutes les infos. Mais passons donc à Cop Nation. Allez, c'est votre moment pour la dernière de la saison, Laurent. Cop Nation, le FCVB qui se déplaçait à Concarneau pour terminer cette saison. Les Caladois qui ont cru tenir vendredi soir leur troisième victoire de la saison à l'extérieur. Mais Concarneau a malheureusement égalisé à la 90e minute. Que retenez-vous de ce dernier match et de la saison des Caladois?
Un match qui était sans enjeu pour les deux équipes qui étaient officiellement en Ligue 3. Une ouverture du score très tôt de la part de Concarneau, mais Villefranche a réagi et puis a même mené au score avec le premier but de Saïbi, de recrue hivernale, qui était venu renforcer les rangs du FCVB. Ça a été une première partie au FCVB compliquée pour lui, mais en tout cas, il finit sur ce but-là. Et puis, Villefranche qui s'est fait égaliser dans les derniers instants avec le capitaine emblématique de Concarneau, Janez. Et voilà, donc match nul qui clôture la saison sans enjeu.
Objectif atteint, le maintien a été assuré il y a quelques semaines pour la première de Fabien Pujol. Une première saison plutôt réussie, même si cette blessure encore de la Coupe de France des Caladois éliminée trop tôt dans la saison.
Oui, effectivement, c'est vrai que Villefranche avait fait des bonnes campagnes, notamment avec un quart de finale face au PSG qui s'était joué au Groupama Stadium. C'est vrai que la Coupe de France, c'est ce qui amène le plus pour ces clubs de national et qui fait vibrer. On l'a vu cette saison avec Saint-Cyr, Collonges, qui avait fait un beau parcours. Mais en tout cas, on va dire que c'est une saison positive, en tout cas mieux que la saison dernière où Villefranche a regardé devant la télé son maintien. Et puis surtout, Baba Carley qui a fini avec 9
buts. Je suis obligé de sortir.
Sullivan Péan. Le gardien avec le plus d'arrêts, avec 111 arrêts dans la saison avant ce match-là.
Et donc, il termine ayant jamais manqué un seul match de national.
Et il est sorti justement à la fin du match de Concarneau pour donner un peu de temps de jeu à un jeune gardien caladois pour lui donner ses premières minutes et les dernières en national, puisque c'est terminé. Puis j'ai une pensée sinon aussi pour Malik Assef, Joseph, oui, qui a fini la saison blessé, qui a énormément apporté. On parlait de Corentin Tolisso au niveau de l'OL, mais il a apporté beaucoup de maturité dans le groupe.
D'ailleurs, et, Fabien Pujol lui a donné le brassard de capitaine. C'est assez première, rare.
Très, très rare.
Et donc,
après, il devrait revenir en fin d'année.
Fin d'année.
Si tout
en tout cas, l'opération s'était bien passée. J'avais eu des nouvelles. Et on lui souhaite de bien. De, il l'avait eu de l'autre côté. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement.
Et maintenant, la Ligue 3, il va falloir préparer ce nouveau championnat dès la saison prochaine, Laurent.
Oui, dès la saison prochaine. Et puis pour finir vraiment clôturer sur le national, c'est Dijon et Sochaux du coup qui vont se diriger.
Vous savez, moi je suis très focus cette année. Mais...
Bourg qui s'est sauvé.
Déjà, c'est... Regarde, franche, c'est trop au nord pour elle. Alors on va pas lui parler de la
Dijon et Sochaux, vous vous perdez. C'est pas possible.
Non, mais on a vu des belles images.
Et peut-être
en tout
Rouen.
Cas. Et Rouen, barragiste.
N'en parlons pas.
Belle transition. Rouen. Barragiste face au 16e de Ligue 2 qui sera Laval pour ce match pour éventuellement rejoindre la Ligue 2, pardon. Et puis en descente de la Ligue 2 vers la Ligue 3, on aura Bastia et Amiens. Donc une grosse sécurité aussi, Bastia, connu dans le football français. Et puis en montée de National 2, qui va rejoindre cette future Ligue 3, on aura Cannes, Thionville, et puis La Roche-sur-Yon, avec une petite dédicace à Enzo Valentim, qui était au FCVB.
Oui. Et qui va qui est venu sur ce plateau, voilà, d'ailleurs, en début de saison.
Et qui va retrouver la Ligue 3 dès la saison prochaine. Et le National 2, pour être complet, qui va devenir le National 1.
Avec la Duchère au Lyonnais qui intègre cette nationale, donc
qui rejoint Limonest.
Andrézieux de Roland.
Andrézieux de Roland Viera, notre consultant. Le Gol FC et Saint-Priest pour le moment est relégué en National 3. C'est la mauvaise nouvelle du week-end, mais voilà, il y aura peut-être.
La DNCG qui va passer par là.
Voilà. Faisal est très bien informé et Faisal est confiant pour que Saint-Priest reste en National la saison prochaine. Ça aussi, on vous le dira sur BFM Lyon.
Après, moi, je m'en fou hein, qui reste
j'ai pas d'attache particulière. On va quand même saluer tous les bénévoles de Saint-Priest.
Bien sûr.
Il y en a beaucoup qui nous regardent et on va se donner plein de soutien.
Et
aussi
on espère
Patrick
pour
Gonzalez,
eux que ça se terminera bien.
Dans l'intersaison compliquée.
Merci messieurs, c'était Cop Nation. Je sais que vous l'attendez avec impatience, le dernier quiz de la saison, mais d'abord, on jette un œil aux autres résultats du week-end pour nos clubs lyonnais.
Le quadruplé historique est toujours possible pour OL Lyon. Les Lyonnais se sont qualifiés samedi pour la finale de l'Arkema Première Ligue aux dépens de Nantes. Dans un match à deux visages, les Fenottes sont rentrés au vestiaire à 0-0 avant d'étrier leur adversaire en seconde période. 5 buts en 20 minutes, puis un triplé d'Ada Egerberg pour conclure la démonstration. 8-0 donc et une place en finale le 29 mai contre le Paris FC, vainqueur du Paris Saint-Germain. Wendy Renard et ses coéquipières auront affronté le FC Barcelone une semaine avant en finale de la Ligue des Champions. Pas de surprise pour l'ASVEL qui était de toute façon déjà fixé sur son sort. Les Villeurbanais affrontaient le Paris Basket sur leur parquet, troisième au coup d'envoi. Et la logique a été respectée. Seul le deuxième carton a été le théâtre d'une éphémère domination villeurbanaise. Paris s'impose finalement 87-76 et profite de la défaite de Monaco pour terminer leader du championnat. L'ASVEL échoue à la quatrième place et rencontrera donc Cholet en quart de finale. Premier match le mardi 26 mai. Plus d'enjeux certes, mais du spectacle à la place. Privé de phase finale, le Loup a quand même régalé Gerland samedi. Une victoire 42-35 contre Bayonne dans le cadre de la 24e et antépénultième journée du top 14. 6 essais au total pour les Lyonnais, dont un 17e cette saison pour Giulta Vainicolo. Pour les deux derniers matchs de la saison, le Loup se frottera à ce qui se fait de mieux. D'abord le leader toulousain, puis son dauphin Montpellier.
Bonne affaire.
Ouais.
Les deux équipes avaient rien.
On était en train de parler de la fin de saison du Loup. Voilà, Faisal se renseigne, il va passer au rugby, il va aller voir les matchs.
Je suis pas.
Mais si, le 6 juin, c'est les 100 ans de Gerland. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps, messieurs, le quiz. On va voir si vous avez été attentif cette saison et si vous avez bien suivi l'Olympique Lyonnais. Normalement, c'est le cas puisque vous êtes régulièrement sur ce plateau,
petite
messieurs.
Question, est-ce que celui qui gagne le quiz gagne toutes les...
Non.
Si c'est pas le quiz en or, c'est pas...
Peut-être que c'est la victoire dont on se souviendra le plus, en revanche, c'est la dernière. Première journée de Ligue 1, messieurs. L'OL se déplace à Lens, qui est le buteur.
Miko Tadze.
Oh, la VAR. Je demande la VAR.
C'est Pauline qui va choisir. Pauline en régie, faut trancher.
J'ai eu l'intonation de...
Ah non, je suis désolée. Bon, bah, un demi-point chacun. Oh c'est là là.
Ah ouais, non,
contre
c'est,
quelle c'est... équipe l'OL a joué son premier match de Ligue Europa cette
Utrecht.
Semaine. Bravo, Faisal.
Révisé celui-là.
Ça va aller très vite.
Qui a marqué?
Il n'a pas révisé ça. Qui a été l'arbitre? Ça va aller très vite. De Rennes OL.
Frappard. Ça glisse.
Oh, ouais, non, non.
Si, et si, Stéphanie si. Frappard, Alice.
Ça glisse. Ouais, mais elle était à la VAR, non?
Elle est à la VAR.
Elle est à la VAR.
Elle est à la VAR.
C'est pas le titre.
C'est vrai.
Elle est à la VAR.
Non, c'est pas. C'est.
Si, c'est elle qui était à la VAR.
Oui, 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 elle est à la VAR. Alice, ça glisse.
C'est ouais.
Bon, non, c'est elle, je me suis trompée, mais c'est elle, c'est bon. Hein, c'était elle.
On a dit toute l'année que c'était elle, de toute façon.
On est parlé toute
oui,
la
semaine.
Je m'excuse. 29 octobre, l'OL se déplace sur la pelouse du Paris FC. Qui sont les buteurs lyonnais?
Abner.
Non.
Tolisso.
Oui.
Ouais.
Soulch.
Non.
Ah, mais les gars, si vous m'en donnez un chacun, ça marche.
Soulch.
Ma foi, il faut dire un truc.
Ma foi, il a mis deux buts, Soulch. Non,
demi.
Il a pas mis deux buts, Soulch.
Vas-y, comment tu fais? Tu as beau, en fait.
Qui fait chuter l'OL pour la première fois cette saison en Ligue Europa?
Et bah, c'est.
Bétis.
Bétis,
j'ai révisé.
Mais ça, les bons.
C'est en Coupe d'Europe.
9 novembre, l'OL reçoit le PSG. Qui marque le dernier but et à quelle minute?
Bah c'est parisien, du coup.
Qui?
João Neves, pardon.
Non, éliminé. João Neves. João Neves, éliminé.
Je me suis trompé.
C'est comme ça.
95e, 11e.
Allez, c'est bon, Faisal. Ouais.
Oh là là là.
Quelle est la plus large victoire de l'OL cette saison, toute compétition confondue?
6-0 face à l'Hapoël Tel Aviv, à Bakou.
Non, Maccabi Tel Aviv.
Ah, oh non,
demi-point chacun, ça fait
non,
j'ai dit, mais c'est planté.
Combien de clean sheets faut se dépêcher. Combien de clean sheets?
22.
11.
19.
Non, 20.
Non, 22.
22 clean sheets.
Laurent, qui est le meilleur passeur de l'OL en Ligue 1?
Tyler Morton?
Non.
Tolisso?
Hendrick.
Hendrick, 7. Ah. Combien de cartons rouges pour l'OL en Ligue 1 cette saison?
7.
Bravo,
dans
Edouard.
5
oh, Edouard est en train de remonter. Attention, il y a match entre Faisal et Edouard. Oh. Donnez-moi le bilan de l'OL
on joue
en
plus,
Ligue 1.
Nous, alors.
Victoire, nulle défaite.
17 matchs.
18.
17 victoires.
18 victoires, c'est bon là. Ah, combien de nuls?
7. 7 nuls.
12.
8.
Non.
6.
6.
6.
Et combien de défaites?
10.
Allez, c'est pour Faisal, il en a 2 sur 3. 32e de finale de Coupe de France contre Saint-Cyr. Lyon ouvre le score par Vinicius. À quelle minute de jeu?
50e.
50.
Ah non, non, plus tard.
C'est retard.
Ouais, ouais, c'est trompé, mais je crois qu'il est...
Qui sera le plus près? Allez, 67, 50e.
52.
51.
52.
Ça, c'est au milieu, moi.
Il a eu deux autres buts dans ce match.
Soulch. Oh,
putain. Il me fait peur. Ok, quart de finale de Coupe de France. Qui sont les joueurs qui participent à la séance de tir au but pour Lyon? Les 5 tireurs.
J'ai pas entendu le début.
Niakate,
Tolisso, il marque.
Niakate,
Hendrick.
Tolisso, il marque.
Tolisso.
Schulz.
Non, il n'y a pas de Schulz.
Éliminé.
Niakate, Tolisso.
Hendrick.
Karabek. Bah, Mata. C'est le seul match qu'il a joué.
Et le dernier.
Mata.
Non.
Abner. Non.
Pas Abner. Non, attends, je vais le dire.
Mera, je crois.
Non. Il est bon sur la première lettre.
Hendrick. Morton.
Ouais. Dernière question, messieurs, mais je crois que Faisal.
C'est bon, je suis loin.
Non, c'est la question. La réponse en or. La réponse en or.
Ah, ça y est, quand je gagne, moi, j'ai dur un truc.
Contre quelle équipe Hendrick inscrit son premier but avec l'OL?
Lille.
C'est pour Edouard.
Je gagne.
Non, en Coupe de France et en championnat, c'était contre
Metz.
Bravo Faisal. Ah. Je crois que c'est une victoire de Faisal pour cette dernière
merci
de la saison.
Messieurs. Merci.
Vous avez très bien révisé Faisal.
Merci.
Il serait question du coup la saison prochaine de réviser comme ça pour chaque émission.
Non, c'est la dernière, c'est une spéciale.
Il faut voilà, je compte sur vous pour la saison prochaine. Merci beaucoup messieurs, c'est terminé pour cette nouvelle saison de COP. Un grand merci à vous quatre, mais à tous les chroniqueurs qui viennent chaque semaine depuis de nombreuses années maintenant pour faire cette émission. Grand merci à tous, on se retrouve dès le mois d'août, bien sûr, pour une nouvelle de saison de COP GON avec la Ligue des Champions. On croise les doigts pour cette nouvelle saison. Merci à Pauline également qui n'a pas loupé une émission cette
et
saison
à tout le foot
en régie.
Aussi.
Et à tout le foot
et
amateur
les bleus.
Et à tous ceux et qui aiment
les bleus
du monde.
À très vite.
C'était Cop Gone avec la brasserie L'Argençon, l'adresse gourmande des supporters lyonnais.